Yigal Palmore, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Yigal Palmore, vous êtes ancien diplomate israélien. Alors, on va parler de l'actualité politique en Israël avec ce bras de fer qui se poursuit entre la Cour suprême et le gouvernement que dirige Benjamin Netanyahou. Les manifestations d'ailleurs montrent que les Israéliens n'acceptent pas ce que la presse israélienne qualifie de destruction de la démocratie. Alors, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites, notamment de l'ancien ministre de la Justice Daniel Friedman pour essayer de calmer les esprits. Il y a une proposition aussi de Yair Lapid, qui est le chef de l'opposition, qui lui suggère que le président de l'État Yitzhak Herzog nomme une commission la plus impartiale possible pour essayer de réformer le système judiciaire. Mais il semblerait que du côté du gouvernement israélien et du ministre de la Justice Yariv Levin, on maintienne le cap des décisions qui ont été prises.
Oui, effectivement, il y a des appels de l'opposition et puis de certains anciens ministres de la justice, de la part du président, des appels à la raison, c'est-à-dire des appels, des propositions pour réformer la justice, mais en concert avec les membres de l'opposition, les partis d'opposition, en tenant compte les réserves des uns, les souhaits des autres, en essayant de trouver un équilibre et de ratisser très très large pour satisfaire la majeure partie de l'opinion israélienne. Réformer la justice, oui, pourquoi pas. Toutes les structures d'État peuvent être réformées. Ce n'est pas un tabou et on peut parfaitement supposer que un gouvernement de gauche ou de droite veuille réformer, changer, modifier les structures d'un appareil d'État pour l'améliorer, pour le rendre plus souple, plus ouvert, plus démocratique. C'est tout à fait envisageable. Mais évidemment, le faire de manière tellement unilatérale, en écrasant toute opposition ou toute réserve, en passant outre toutes les critiques ou toutes les opinions contraires, sans prendre en compte les avertissements des experts, des anciens ministres de la justice, d'anciens juges, et en reposant uniquement sur l'argument personnel, l'argument Bibi ou l'argument Derry, ce n'est pas évidemment rendre confiance, ce n'est pas évidemment rendre le système ou la réforme plus acceptable au plus grand nombre. On dit que le système de la justice israélienne a perdu la confiance du grand public et que les sondages le montrent. Eh bien, les mêmes sondages montrent que si la confiance du public en général dans la Cour suprême est en baisse, la confiance de ce même public dans le même sondage, dans l'appareil politique, les partis et les politiciens, est trois fois plus basse que la confiance manifestée à l'égard de la justice. Donc s'il faut se reposer, s'il faut s'appuyer sur ces sondages, ce sont les politiciens qui doivent rentrer chez eux, ce sont les partis politiques qu'il faut dissoudre pour que le public ait confiance dans le système. Ce n'est pas la Cour suprême. Alors il faut savoir, il ne faut pas sélectionner les chiffres qui paraissent convenables et ignorer les autres. Donc il faut un consensus très large, mais en ce moment, les seules voix qui s'élèvent au sein de la coalition de Netanyahou sont celles qui rejettent toute possibilité de consensus et celles qui promettent de faire passer la réforme par tous les moyens. Et donc, cela n'inspire aucune confiance dans les intentions de ceux qui poussent cette grande réforme. grands, ces grandes refondations de la justice israélienne, surtout quand il argumente que la raison principale de ce grand changement, de ce grand chamboulement qu'ils appellent de leur vœu, c'est le cas personnel de Netanyahou ou le cas personnel de Aryeh Deri.
Ouais, alors vous parliez des partis politiques, on va parler du parti Chasse et du cas Deri. La Cour suprême, encore elle, certains seraient tentés de vous dire, demande à Benjamin Netanyahou de démettre de ses fonctions Aryeh Deri. C'est chose faite mardi, mais voilà, c'est chose faite plutôt dimanche. C'est aujourd'hui d'ailleurs que sera effectif le départ de Aryeh Deri du gouvernement et eh bien toute la coalition fait bloc autour de Aryeh Deri et cette même coalition essaye de trouver des idées pour le maintenir. Alors ça c'est incroyable. On envisage même de le nommer vice-premier ministre. Dans ce cas-là, il bénéficierait de l'immunité du premier ministre, donc il serait intouchable. Comment on comprend ça en Israël ?
Bien, ça dépend à qui vous posez la question, bien sûr. Disons que du côté du Chas, on dit que la Cour suprême n'a pas le droit d'écarter de la politique quelqu'un qui a été élu par 400 000 électeurs. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce monsieur en question a été, au cours de ces dernières années, condamné par la justice à 3 reprises. Il a à son actif 3 condamnations. Et non seulement a-t-il 3 condamnations, la Cour a déterminé qu'il a, au cours de son dernier procès, il a menti à la Cour pour obtenir la possibilité de se représenter aux élections. Il a menti. Donc la question n'est pas de savoir si Aryeh Deri est élu ou pas élu, s'il est populaire ou pas populaire au sein des électeurs d'un certain parti. Ça n'a rien à voir, c'est hors sujet. La question est de savoir s'il a menti à la justice sciemment pour que celle-ci lui permette de se représenter aux élections. S'il n'avait pas menti, il se peut que effectivement sa 3e condamnation l'aurait disqualifié politiquement. C'est tout à fait possible, mais ce n'est pas à cause de ses positions politiques, c'est parce qu'il aura été condamné 3 fois. Et on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'un petit saint innocent qui, parce qu'il serait trop populaire aux yeux des classes populaires, serait disqualifié par les élites judiciaires. C'est comme ça que souhaite le présenter Netanyahou et Deri lui-même, mais c'est évidemment tout à fait faux, sauf que, évidemment, les supporters de Deri et certains des supporters de Bibi promeuvent cette image tout à fait fausse de ce qui s'est passé. Les sondages, pourtant, montrent qu'une bonne partie des électeurs du Likoud ne tombe pas dans ce piège et il y a une très grande majorité au sein de l'opinion israélienne, je crois que c'était 63%, donc une très grande majorité, pour soutenir la décision de la Cour suprême d'écarter Aryeh Deri de la politique.
Alors, on l'entend beaucoup ces derniers temps, en fait, depuis la nomination de ce nouveau gouvernement et la victoire de la coalition parlementaire en Israël, on entend beaucoup ce mot « atteinte à la démocratie », on le voit avec la réforme du système judiciaire, mais on a l'impression que ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. Je ne sais pas si vous avez vu le projet de loi qu'a déposé un tout nouveau député israélien qu'on connaît bien, vous et moi, qui s'appelle Boaz Bismuth, qui était journaliste, qui a été ambassadeur en Mauritanie, et il a déposé un projet de loi qui a fait lever tous les boucliers de la presse israélienne. Alors, que dit ce projet de loi ? Eh bien, quand un journaliste enquête sur une personnalité et qu'il s'aperçoit qu'il y a des malversations, qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de la loi, c'est le travail, je dirais, d'un journaliste que d'enquêter, eh bien, il ne pourra pas publier ce qu'il a découvert sans l'accord du principal intéressé. Alors, on s'imagine bien que si quelqu'un enquête, par exemple, sur le cas Arié Derry et veut publier, et, il prend son téléphone, il demande à Arié Derry « Est-ce que je peux publier ?» Bien évidemment, il va lui dire non.
Oui, précisons qu'il s'agit d'enregistrement. On ne pourra pas publier l'enregistrement d'une personne sans son accord. Et il ne s'agit pas seulement d'une enquête. Imaginez qu'une personnalité publique, un homme ou une femme politique, ou enfin une personnalité parle d'un sujet qui est d'un intérêt public et qu'elle le fasse dans un cercle plus ou moins fermé, devant un parterre plus ou moins large, mais à huis clos, et que quelqu'un enregistre cette personne. Bon, il ne s'agit pas de confidence hein, entre un homme et une femme. Il ne s'agit pas de confidence entre un client et son avocat. Il s'agirait dans ce cas d'une expression publique d'opinion ou d'analyse devant un certain groupe de personnes. Et si cet enregistrement tomberait aux mains d'un journaliste, il ne pourrait pas le publier, alors qu'on sait combien ces dernières années des enregistrements de personnalités publiques ont été publiés et ont révélé le fond de la pensée d'un grand nombre de personnalités importantes dans le débat sociétal. Évidemment, c'est tout à fait anti-journalistique. C'est anti-presse libre, cette initiative. Et le plus décevant, c'est que quand on a interviewé à la télé hier le député Boaz Bismuth sur son projet de loi, et on lui a demandé d'expliquer comment ça fonctionnerait, il n'a fourni aucune explication. Tout ce qu'il a dit, c'est « ne vous inquiétez pas, j'étais journaliste, donc je sais de quoi je parle, ça ne portera pas atteinte aux enquêtes et à la démocratie ». Voilà, il faut simplement respecter la confidentialité des personnes. Donc c'est incompréhensible comment un journaliste, un vétéran du journalisme, puisse promouvoir ce genre de projet de loi.
Alors on va dire un mot également avec vous, Yigal Palmor, sur la visite secrète du ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, aux Émirats Arabes Unis. J'avais cru comprendre qu'il y avait des liens diplomatiques entre Abu Dhabi et Jérusalem. Pourquoi une visite secrète ?
Oui, on a tous cru comprendre cela. Maintenant, essayons de comprendre ce qui se passe. D'abord, Netanyahu n'a pas envie que ses contacts soient gérés, que les contacts du gouvernement israélien avec des pays qu'il considère sensibles soient gérés par le ministère des Affaires étrangères. Il veut non seulement maintenir la confidentialité de tous ses rapports avec certains gouvernements, mais également le contrôle absolu. Or, Ron Dermer est le fidèle parmi les fidèles, le conseiller le plus proche et le plus, c'est celui auquel Netanyahu a le plus confiance après sa famille nucléaire. Il faut comprendre que les relations entre Dermer et Bibi sont vraiment symbiotiques. Et donc, s'il a dépêché Ron Dermer aux Émirats Arabes Unis, c'est qu'il avait une mission ultra confidentielle à remplir. On ne sait pas ce qu'elle est. On peut seulement imaginer qu'il s'agit de cette fameuse visite de Netanyahou à Abu Dhabi, une visite annoncée à corps et à cri, mais qui a été reportée ou plutôt annulée après le petit tour sur le mont du Temple qu'avait fait le ministre Ben-Gvir, n'est-ce pas ? On peut imaginer que c'est cela la cause, et donc c'est pour ça que Netanyahou ne voudrait pas que cette démarche soit faite par des diplomates professionnels, ou qu'elle soit connue par quelqu'un d'autre que son conseiller intime, le ministre Dermer.
Oui, et encore un mot, les Américains se succèdent hein, en Israël après Jack Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale. C'est Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui va arriver en Israël. On voit bien que les Américains, surveillent hein, ce qui se passe en Israël.
Oui, je crois que l'administration américaine est très préoccupée par ce qui se passe, pour toutes les raisons évidentes que l'on peut comprendre. Si la stabilité d'Israël ou la crédibilité d'Israël en tant qu'allié des États-Unis est mise en cause, Cela causera des maux de tête terribles à Washington, bien sûr, alors que, évidemment, les Américains n'ont pas besoin de cela. Ils ont des énormes défis à relever en Ukraine et en Chine, et ils n'ont pas besoin de bruit de fond au Proche-Orient. Donc, comme vous venez de le dire, ils sont en train de surveiller de très près l'évolution de la situation politique en Israël.
Yigal Palmore, merci d'avoir été avec nous sur Radio Shalom. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate israélien. Merci, bonsoir.
Bonsoir Pierre.